France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'assassinat du docteur Tiller et le terrorisme anti-avortement aux États-Unis. Le 31 mai 2009, l'obstétricien George Tiller est assassiné. Et c'est le 8e employé d'une clinique pratiquant des avortements qui trouve ainsi la mort. Ce médecin, qui avait déjà survécu à une tentative de meurtre 15 ans plus tôt, est tué par un fondamentaliste un dimanche dans son église. Raconter son combat, c'est revenir sur 50 ans d'histoire américaine. Des avortements clandestins des années 60, la légalisation de l'IVG dans tout le pays en 73, jusqu'à juin 2022, où le droit à l'avortement n'est plus protégé par la Constitution américaine, résultat d'années de terreur semées par des extrémistes chrétiens. Pendant 30 ans, ces fous de Dieu ont enchaîné les attentats contre les cliniques, forçant les équipes médicales à travailler en gilet pare-balles. Quand la religion, quelle qu'elle soit, se mêle de politique dans la sphère publique, le péril est grand et il reste très difficile pour les élus américains de s'opposer à cette idéologie misogyne anti-avortement tant que les évangélistes représenteront une base électorale aussi puissante. Notre invitée aujourd'hui, Isabelle Hahn, correspondante aux États-Unis pour Libération et autrice du Choix, roman publié aux éditions de la Goutte d'Or en janvier 2023, une histoire inspirée justement du meurtre du docteur Tiller. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Constance Villanova, coordination Franck Cognard. Chargée de programme, Rebecca de Nantes. Réalisation, Charles de Silia. À Wichita, plus grande ville de l'État du Kansas, en ce 31 mai 2009, l'air est printanier. C'est dimanche. Et comme chaque semaine, les paroissiens d'église luthérienne réformée se retrouvent dans cet édifice moderne en briques rouges, planté au milieu d'une pelouse parfaitement tondue. Il est 9h30. Dans le vestibule, le docteur George Tiller accueille ses fidèles. Lunettes vissées sur le nez, souriant, il porte un costume vert. À ses pieds, comme d'habitude, ses bottes de cow-boy estampillées d'un aigle, symbole d'une Amérique patriote. George Tiller, médecin de 67 ans, dirige la clinique pour femmes Women's Health Care Services, connue pour être l'une des rares du pays à pratiquer des avortements pendant le troisième trimestre de grossesse. Le dimanche, c'est jour de répit pour George Tiller. Les anti-avortements ne viendront jamais le chercher jusqu'ici. Fervent croyant et patriote, père de 4 enfants, il est un nageur, un placeur pour sa paroisse. Et avant que le service ne commence, ce dimanche 31 mai, il discute avec son ami Gary. Tout en distribuant le programme de la cérémonie du jour, il raconte ses vacances en famille à Disney World, en Californie. C'est la Pentecôte, et pour l'occasion, depuis l'hôtel, le pasteur a choisi de jouer de la musique. Et l'église est pleine à craquer. Parmi les fidèles qui s'installent sur les bancs de l'église, la femme du docteur Tiller, Jane. Gary baisse doucement la luminosité de l'édifice, signe que l'office va commencer. Mais au moment où le docteur Tiller s'apprête à rejoindre l'allée, un homme gravit les marches de l'entrée et se dirige droit sur lui. Chauve, il porte une chemise blanche, un pantalon noir et tient fermement une Bible dans ses bras. Il fouille dans sa poche avec son autre main. En une poignée de secondes, il fonce vers Tiller, dégaine un pistolet et tire sur lui. Après avoir murmuré un très commode « Seigneur, pardonne-moi », le tueur prend la fuite. Tiller s'effondre. Gary tente de rattraper l'agresseur pendant qu'une paroissienne se précipite sur le médecin pour essayer de le réanimer. Plus de poux. Jan Tiller, la femme de George, se rue alors dans le lobby et son cri déchire le silence. Après des années de menaces, George Tiller vient d'être assassiné.
Il était pourtant sous la protection du FBI. Menacé depuis des années parce qu'il pratiquait des avortements dans la puritaine Amérique. Le docteur Tiller est mort hier, tué par balle, alors qu'il priait à l'église par un homme seul, interpellé depuis. Le médecin était un des rares praticiens à réaliser dans sa clinique en toute légalité des avortements dits tardifs. Depuis des années, le docteur Tiller était devenu la cible des mouvements anti-avortements les plus extrémistes. Une chasse aux sorcières, selon ses propres mots.
George Tiller, né en 1941 à Wichita, au Kansas, au cœur des États-Unis. Dès son plus jeune âge, son père, médecin Jack Tiller, le trimballe avec lui dans sa clinique. Il marche dans ses pas et étudie à l'école de médecine de l'Université du Kansas dès 1963. C'est là qu'il rencontre John, sa future épouse. En 70, il sert dans l'armée de l'air en tant que chirurgien en Californie. Mais un premier drame oblige celui qui voulait devenir dermatologue à revenir dans sa ville natale. En août 70, sa mère, sa sœur et son beau-frère embarquent dans un petit avion piloté par son père, Jack. Mais l'appareil se crache dans le parc naturel de Yellowstone quelques heures plus tard. Aucun survivant. George Tiller quitte alors la Californie pour retourner à Wichita et s'occuper de sa grand-mère et de son neveu devenu orphelin. Il décide de donner un coup de main temporaire aux infirmières de la clinique de son père. Il se promet de rester dans le Kansas un an, pas plus, mais les patients lui demandent de rester. George découvre alors le lien puissant qui les unissait à Jack Tiller, son père. Et il prend goût à ce quotidien dans la clinique et décide de s'installer définitivement à Wichita avec sa femme. Dans le secret des consultations, des patientes enceintes lui confient que les femmes chuchotent entre elles le nom de cette clinique, car le docteur Jack Tiller y pratiquait des avortements clandestins. En 1970, l'IVG est illégale aux États-Unis. Les femmes les plus riches ont les moyens de s'envoler jusqu'à la Californie, où un certain Ronald Reagan, gouverneur républicain, vient de signer une loi qui libéralise l'avortement. Pour les autres, on se passe sous le manteau des adresses de faiseuses d'anges qui provoquent des fausses couches dans des cuisines non aseptisées. D'autres s'échangent des techniques à réaliser chez soi à l'aide de cintres, d'aiguilles à tricoter ou de produits chimiques, présentant parfois un danger mortel. Le débat pour la légalisation de l'avortement fait rage dans un pays où la religion est politique. Et le mouvement féministe livre une guerre sans merci aux conservateurs. Et pour cause, à l'époque, on estime à 130 000 par an le nombre des avortements clandestins aux États-Unis. Parmi celles qui y ont recours, il y a Carol Dinau, qui avorte dans le secret en 1965, à l'âge de 22 ans. Elle témoigne de la Guardian 60 ans plus tard.
Je n'ai jamais envisagé une seule minute de mener cette grossesse à terme. Cela n'allait tout simplement pas faire partie de ma vie à ce moment-là. J'avais un plan. J'allais terminer mon doctorat et enseigner. J'ai demandé à une amie de me donner le nom de quelqu'un pour pratiquer un avortement. Son amie connaissait un ami, qui connaissait un ami, qui avait accompagné quelqu'un. C'était ce genre de réseau souterrain. Les filles de mon université avaient une règle, ne jamais laisser son compte courant descendre au-dessous de $300. Nous savions tous ce que cela signifiait. J'avais donc l'argent pour l'intervention. Nous sommes allés dans un petit bureau et la personne qui l'a réalisé était un médecin. La salle n'était pas stérile. Je ne me souviens de presque rien de la procédure, sauf du médecin qui a dit « ne faites pas de bruit ». C'était douloureux, il n'y avait pas d'anesthésie. Mon trajet m'a ramené à mon dortoir. J'ai vomi au milieu du hall de l'université et j'ai dit à tout le monde que j'avais la grippe.
En 69, une autre femme, Norma McCorvey, 21 ans, tombe enceinte au Texas où l'IVG est interdite. Précaire, elle ne peut pas prendre l'avion pour se rendre dans un état qui a libéralisé la loi sur l'avortement. Deux avocates, Sarah Whittington et Linda Coffey, la conseillent pour intenter une action en justice. Les juristes poursuivent alors Henry Wade, procureur du comté où habite la jeune femme anonymisée sous le nom de Jane Roe. Leur objectif, prouver que la loi texane porte atteinte aux droits constitutionnels des femmes et à la protection de la vie privée. Elles perdent leur procès devant la cour du district, mais l'avocate Sarah Whittington, du haut de ses 24 ans, fait appel devant la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, qui donne raison à Jane Roe contre Henry Wade. La décision de la Cour est votée en 72 et publiée le 22 janvier 73. Le droit à l'IVG est légalisé tant que le fœtus n'est pas viable, soit vers 22 semaines de grossesse. C'est l'arrêt Roe v. Wade, historique.
La Cour suprême des États-Unis déclare que l'avortement relève désormais d'une affaire privée entre les femmes et leurs médecins pendant les trois premiers mois de la grossesse. Cette décision conduira probablement à un remaniement drastique des lois des États sur l'avortement. Plus précisément, le tribunal a aujourd'hui annulé la loi du Texas et de Géorgie et a décidé que le gouvernement n'a aucun droit d'intervenir dans une décision qui concerne la mère et son docteur. Pendant le deuxième trimestre, l'État devra réguler la question des avortements, mais seulement pour assurer la sécurité de la mère, et pour le dernier trimestre, ce que dira l'État prévaudra.
En 1973, le docteur Tiller, 32 ans, considère que l'avortement est un droit fondamental qu'il doit pratiquer dans son établissement. Dans la clinique de son père, il met en place une relation patiente-soignante des plus humaines. Il recrute de plus en plus de femmes et propose des avortements 4 fois moins chers que dans les autres établissements spécialisés. $250 l'intervention contre 1000 d'habitude. Tiller rebaptise sa clinique Women's Health Care Service et accroche au mur de son bureau une photo du docteur Jack Tiller, son père. Il continue à se former jusqu'à devenir un expert dans son domaine. Il est l'un des rares médecins du pays à proposer des avortements jusqu'au dernier trimestre de grossesse. Il raconte son engagement pour les droits des femmes.
Je suis un médecin éduqué en ce qui concerne les droits des femmes. Je ne sais pas combien mon père a pratiqué d'avortements, mais les patientes de mon père qui en ont bénéficié m'ont éduqué et m'ont appris que l'avortement ne concerne pas les bébés, ni les familles. L'avortement concerne les espoirs des femmes, leurs rêves, leur potentiel et le reste de leur vie. L'IVG est un problème de survie pour les femmes.
Le docteur George Tiller reste un fervent croyant et, estime-t-il, sa foi chrétienne n'entre pas en désaccord avec son travail. Mais certains citoyens américains ne sont pas de cet avis. Une première organisation anti-avortement voit le jour dans les années 70, le National Right to Life Committee, Comité national pour le droit à la vie. Ces militants, appelés à tort pro-life pour pro-vie, s'organisent. Car pour eux, la vie commencerait dès la conception. Le mouvement se politise et entame sa croisade. Dès 1976, le Parti républicain ajoute des revendications anti-avortement dans son programme. Il faut dire que les anti-IVG chrétiens, évangéliques ou catholiques représentent une base électorale importante. Alors qu'en 68, Ronald Reagan, à l'époque gouverneur de la Californie, avait signé une loi pour libéraliser l'IVG, il s'appuie désormais sur les chrétiens anti-avortement pour remporter l'élection présidentielle de janvier 80. Et il nomme 2 juges anti-avortement à la Cour suprême pendant son mandat, mettant en péril l'arrêt Roe v. Wade. Le mouvement se radicalise au point, pour certains, de plonger dans le terrorisme. En 82, des fondamentalistes chrétiens fondent the Army of God, ou Armée de Dieu. Ce groupe terroriste se fait connaître en prenant en otage un médecin pratiquant des avortements et son épouse. Tous deux libérés sains et saufs. Mais l'Armée de Dieu entend bien éradiquer ce qu'elle appelle les avorteurs, tueurs d'enfants. Dans la 3e édition de son manuel d'action, on peut lire ce message adressé aux obstétriciens.
Après avoir prié, jeûné et fait des supplications continuelles à Dieu pour vos âmes païennes et infidèles, nous avons alors pacifiquement, passivement présenté nos corps devant vos camps de la mort, vous suppliant d'arrêter le massacre de masse des enfants. Pourtant, vous avez endurci vos cœurs déjà noircis. Nous avons tranquillement accepté l'emprisonnement et la souffrance résultant de notre résistance passive. Vous vous êtes moqué de Dieu et avez poursuivi l'Holocauste. Plus maintenant, toutes les options ont expiré. Pas par haine de vous, mais par amour pour les personnes que vous exterminez, nous sommes forcés de prendre les armes contre vous. Vous ne serez pas torturés par nos mains. La vengeance n'appartient qu'à Dieu.
En 1986, pour la première fois, la clinique de George Tiller est visée par des anti-IVG. Une bombe explose, mais ne fait aucun mort ni blessé. Pas de revendication, 100 000 euros de réparation néanmoins et de travaux pour la sécuriser. Mais le médecin n'abdique pas. 3 jours après l'explosion, il plante une pancarte devant son établissement. On peut y lire « Oh que non, nous ne partirons pas well, ». Aujourd'hui, le terrorisme anti-avortement aux États-Unis.
Affaires sensibles. Sur France Inter.
Si les anti-avortements ne plongent pas tous dans le terrorisme, leur organisation s'intensifie. En 86, une nouvelle action voit le jour, Operation Rescue. Son créateur, Randall Terry, un ultra-conservateur, se réapproprie, et c'est ironique, les préceptes de désobéissance civile fondés par le mouvement pour les droits civiques porté par Martin Luther King dans les années 60, et sans complexe. Devant les cliniques qui proposent des IVG, de plus en plus de militants se réunissent chaque jour pour manifester. Ils tentent de dissuader les patientes qui gardent timidement leur véhicule avant leur consultation. Sur leurs pancartes, des photos de fœtus, des drapeaux américains, des versets de la Bible. Le mouvement s'appuie particulièrement sur le chapitre 24-11 de la Bible qui dit « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les ». Operation Rescue organise également des sittings et des opérations de communication solides pour faire venir les journalistes. « Nous sommes ici pour délivrer l'enfant innocent condamné à mourir aujourd'hui », clament ces fous de Dieu. Tout est fait pour décourager les médecins qui, souliers hués, rejoignent quotidiennement leur voiture sur le parking de leur lieu de travail. L'ambiance est électrique. À l'été 91, Operation Rescue fait de Wichita et de la clinique du Dr Tiller l'épicentre de la lutte contre l'avortement. L'établissement est surveillé de près par les anti-IVG. En cause, la possibilité très encadrée d'une interruption de grossesse pendant le dernier trimestre. Cette année-là, Operation Rescue lance le Summer of Mercy, ou Été de la Miséricorde. L'ennemi a désormais un visage, celui de George Tiller, présenté comme le plus grand assassin de la nation. À partir du 15 juillet 91, des milliers de manifestants affluent à Wichita. Ils bloquent les rues, les entrées des cliniques et se postent immobiles au milieu de la route ou interpellent des patientes qui ont rendez-vous pour avorter.
La police de Wichita utilise deux bus de ville et un camion pour envoyer les sauveteurs pro-life en détention. Même un prêtre a été arrêté alors qu'il prêchait en montrant à des femmes des photos des fœtus morts.
Il aura une si belle vie. Laissez-le vivre. Laissez-le être soigné. Laissez-le vivre, s'il vous plaît. Laissez-le vivre. Votre choix, c'est la mort. L'autre, c'est la vie. Quelqu'un aimera votre bébé. Quelqu'un s'occupera de lui. Quelqu'un s'occupera de vous.
Pour apaiser la situation, en accord avec la police, George Tiller décide de fermer sa clinique une semaine. Mais malgré le risque d'une amende de 25 000 $, de plus en plus de militants traversent le pays pour s'agglutiner devant l'établissement médical. George Tiller reprend des services et délaisse sa Chevrolet de sport rouge vif pour un 4x4 blindé. Dans sa clinique, il fait poser un système de caméras de vidéosurveillance et un détecteur de métaux à l'entrée. Tiller et les membres de son équipe cachent tous un gilet pare-balles sous leur blouse. Cet été-là, même chez lui, il n'est plus en sécurité. Son adresse circule, le nom de l'école de ses enfants aussi. Les manifestants l'attendent devant chez lui tous les jours, pancartes en main et photos de fœtus ensanglantés en prime. L'action dure 6 semaines et se solde par 2600 arrestations. 30 000 manifestants participent à cet été de la miséricorde sous la bannière d'Operation Rescue. Pour conclure ces 42 jours de harcèlement estival, un grand concert est organisé en plein air dans le stade de Cessna. Alors qu'un révérend ultra-conservateur prononce un discours exalté devant une foule de 25 000 participants, une banderole tirée par un avion fend le ciel, exhibant ce message « Rentrez chez vous, Wichita restera toujours pro-choix ». Cet été de la miséricorde aura réussi à dédiaboliser la traque des médecins qui pratiquent des avortements, et ce, jusqu'à la mort. Ainsi, le 10 mars 93, à Pensacola, en Floride, le docteur David Gunn est abattu par l'extrémiste Michael Griffin. C'est la première fois qu'un médecin qui pratique des IVG est tué aux États-Unis. Le fondamentaliste de 31 ans, l'assassin, devient lui une source d'inspiration. Et le terrorisme anti-avortement commence à déferler sur les États-Unis.
Cela s'est passé devant la toute nouvelle clinique d'avortement de Pensacola, où un groupe d'une douzaine d'activistes, appelé Rescue America, était en train de manifester.
Il était censé nous rejoindre ici, et la première fois que je l'ai aperçu était quand il est revenu de l'arrière de la clinique. Il a marché jusqu'à l'officier de police et a dit « Je viens de tirer sur Dr. Gunn ».
Michael Griffin s'est tout de suite rendu. La semaine dernière, plus de 540 membres du Congrès ont demandé au FBI d'enquêter sur une série d'attaques à l'acide sur des cliniques l'année dernière.
Août 93, Shelley Shannon, 37 ans, regarde le paysage défiler, la tête contre la vitre de l'autocar qui l'emmène de l'Oregon vers l'Oklahoma City. Sans doute pense-t-elle à son héros, Michael Griffin, qui a abattu en mars dernier le docteur David Gunn. Shelley lui écrit 25 lettres pour le féliciter d'être un brave soldat. Arrivée à Oklahoma City, elle loue une voiture et parcourt les 150 000 miles qui la séparent du 5107 Kellogg Drive à Wichita. Shelley se mêle aux manifestants anti-avortement présents devant la clinique du docteur Tiller. Elle connaît le visage du médecin, elle l'a bien imprimé. Nous sommes le 19 août 1993. Devant le centre médical, en plein soleil, Shelley patiente, impassible. Elle est en mission. Oui, en mission pour l'armée de Dieu, le groupe terroriste créé en 82. À 19h, le docteur George Tiller sort comme d'habitude sous les huées de la poignée de manifestants présents, chaque jour, rappelons-le. Il se dirige d'un pas rapide vers sa voiture. Shelley Shannon le suit. La main fourrée dans son sac, elle s'apprête à lui parler. Depuis son véhicule, épuisé, Tiller lui fait un doigt d'honneur à travers la vitre. Alors Shelley Shannon sort un semi-automatique et tire 6 fois dans la direction du médecin. Couvert de sang et de débris de verre, blessé aux deux bras, Tiller parvient à quitter son véhicule et à s'abriter dans sa clinique. Shelley, elle, prend la fuite. Une infirmière a le temps de noter le numéro de sa plaque d'immatriculation. Elle est arrêtée dès le lendemain. Shelley Shannon n'en est pas à son premier attentat. La fondamentaliste avait déjà participé à des actions terroristes contre des cliniques. Quelques bombes placées ici et là. Incarcérée dans le Kansas, elle devient le visage du martyr des terroristes anti-avortement, une prisonnière du Seigneur. De son côté, l'armée de Dieu enchaîne les appels aux dons, lui fait envoyer des lettres, de l'argent et propose à la vente des écharpes et bonnets qu'elle fabrique dans sa cellule. Le site internet de l'armée de Dieu publie ainsi le témoignage de Shannon qui déclare
« Je ne nie pas que j'ai tiré sur Tyler. Mais je nie le fait que j'ai eu tort. C'est la chose la plus sacrée, la plus vertueuse que je n'ai jamais faite. Je n'ai aucun regret. J'espère qu'il ne tue pas de bébé aujourd'hui. Si c'est le cas, au moins j'aurais essayé. Si j'allais passer le reste de ma vie en prison, ou mourir dans une explosion, j'allais au moins le faire dans la volonté de Dieu. »
Blessé, George Tiller survit et reprend le travail dès le lendemain, infatigable. De nouveau, il plante une pancarte devant sa clinique. On peut y lire « Les femmes ont besoin des avortements et je vais les aider ». Élu depuis un an, l'administration démocrate de Bill Clinton s'empare de la question. Le Congrès vote le FACE, ou Freedom Access to Clinics, l'accès libre aux cliniques, et criminalise le blocage des établissements pratiquant des IVG. La tension monte. Les membres de l'armée de Dieu diffusent entre des affiches avec des photos des médecins américains qui pratiquent des IVG, ornées d'un macabre « Wanted » en majuscule, s'il vous plaît. Ces médecins doivent être éliminés. On offre 5000 euros de récompense à quiconque donnera des informations personnelles sur ce qu'ils appellent les tueurs d'enfants. Le 29 juillet 94, en Floride, Paul Hill, un leader anti-avortement du groupe Defensive Action et ancien pasteur, abat le docteur John Bayard Britton, 69 ans, ainsi que Fernandina Beach, sa collègue. Les deux soignants revenaient de l'aéroport en voiture. Ils croulaient sous les menaces de mort. Ils étaient équipés de gilets pare-balles et escortés par un lieutenant de l'Air Force. Paul Hill a visé la tête. Quelques jours plus tôt, planté devant la clinique du docteur Britton à Pensacola, il interpellait des patientes en leur criant « Maman, je t'en prie, ne me tue pas !» Élevé en martyr par les intégristes anti-avortement, en blouse orange, menottes aux mains et allure de genre idéal, le terroriste raconte son crime dans le documentaire « Soldat dans l'armée de Dieu ».
J'ai vraiment senti que le Seigneur voulait que je tire sur l'avorteur. Car la parole de Dieu défend la protection des innocents Je savais qu'avec ces circonstances, c'était la chose appropriée à faire. J'ai senti que le Seigneur m'a appelé pour plaider pour la justice des enfants, par la force. Je pensais que j'allais être bourré de zèle ce jour-là, mais ce n'était pas le cas. C'était très difficile. Je souris maintenant, mais ce n'était pas le cas à ce moment-là. C'était une tâche sinistre.
Paul Hill, l'assassin, qui, comme ses complices, considère que l'avortement est une peine de mort, n'est pas dépaysé, lui aussi va y passer, par injection. Mais le fléau qu'il représente n'est pas éradiqué. Le 31 décembre 1994, la réceptionniste d'une clinique de Boston est assassinée. À la fin des années 90, aux États-Unis, les médecins pratiquant des IVG sont une espèce en voie de disparition. D'ailleurs, les techniques de l'avortement sont si peu enseignées que les responsables de l'enseignement médical ont été contraints de demander aux universités d'inclure une formation spécialisée. Comme quoi le lobby anti-avortement grignote peu à peu la Cour suprême. Depuis sa promulgation, l'arrêt Roe v. Wade est sans cesse menacé. Mais l'idéologie obscurantiste se diffuse aussi dans les médias par le biais d'une toute nouvelle chaîne sur les écrans américains depuis 1996, la très réac Fox News. Bill O'Reilly, polémiste qui éructe comme il respire, en devient la figure de proue dans son émission quotidienne. Il attire 3 millions de téléspectateurs par jour. Sa cible favorite? Évidemment, le docteur George Tiller. Le journaliste en carton-pâte jette de l'huile sur le feu. Il compare le médecin à Staline ou Hitler et le surnomme à l'antenne Tiller, the baby killer, ou Tiller, le tueur de bébés.
Tuer des bébés en Amérique. Ce sera le sujet du mémo du soir. Pour 5 000 $, Tiller, the baby killer, comme certains l'appellent, pratiquera une IVG tardive pour toutes les raisons possibles. Vous devriez être très préoccupé par ce qui continue de se produire au Kansas. Cet homme, Dr. George Tiller, connu comme Tyler le Baby Killer, pratique des IVG tardives sans en préciser les raisons médicales. Tiller a tué des milliers de fœtus du troisième trimestre sans explication. C'est certain qu'il a du sang sur les mains. Il devrait y avoir une place en enfer pour ce type. Ce type tuera votre bébé pour n'importe quelle raison et 5 000 $.
En janvier 97, deux bombes explosent dans une clinique d'Atlanta. En octobre 98, alors qu'il est dans la cuisine chez lui, à New York, le docteur Barnett Slepian est tué par un sniper. À Wichita, George Tiller ne lâche rien. Même si sa femme et ses enfants sont menacés, même si au début des années 2000, le procureur général du Kansas veut voir sa clinique fermer ses portes, même si Operation Rescue installe son QG dans sa ville, il tient bon. Pendant ce temps, les États conservateurs font passer de plus en plus de lois restreignant l'accès à l'avortement. Dans les locaux de l'organisation Operation Rescue, on se gargarise en accrochant sur un mur des trophées les photos des cliniques qui ferment leurs portes. Le 20 janvier 2009, Barack Obama s'installe à la Maison-Blanche, mais sa promesse de ne pas entraver ce droit fondamental qu'est l'IVG ne sauve pas la vie du docteur George Tiller. Une situation qui nous renvoie au début de ce récit, le dimanche 31 mai 2009, au moment où l'office de Pentecôte va commencer. Scott Rother, un fondamentaliste atteint de schizophrénie, claque la porte de sa voiture sur le parking de l'église luthérienne réformée de Wichita. À 51 ans, seul et ultra paranoïaque, il passe son temps sur d'obscurs forums en ligne à comparer le docteur Tiller au médecin nazi Joseph Mengele. Son pseudo, Server of Messiah, ou serviteur du Messie. Quand il n'est pas connecté, il rôde autour de la maison des Tiller ou manifeste devant sa clinique. Il est presque 10 heures, il sort son arme et vise le docteur George Tiller, 67 ans, qui meurt sur le coup.
Est-ce qu'il y a eu un moment où votre foi, vos croyances religieuses ont changé ?
Oui, vers 1992. Oui, je regardais le 700 Club régulièrement, une émission chrétienne. Et à la fin, il y avait toujours une invitation à donner sa vie au Christ. J'étais seul dans mon salon, et ce jour-là, je me suis mis à genoux et j'ai accepté le Christ comme mon sauveur. C'est un meurtre. Ce n'est pas le travail des hommes que d'ôter la vie. C'est à notre Père. Il est notre Créateur. Il donne et ôte la vie. Ce n'est jamais aux hommes de prendre la vie, sauf en cas d'autodéfense ou pour défendre autrui.
En avril 2010, Scott Roder, l'assassin du docteur Tiller, est condamné à la prison à vie, assorti de 50 ans de sûreté. Depuis les années 90, aux États-Unis, 4 médecins et 4 membres du personnel de gestion ou de la sécurité des cliniques ont été abattus. Et c'est sans compter les attentats à la bombe, à l'acide, les incendies criminels, les attaques biochimiques, le vandalisme des cliniques, la traque physique ou en ligne. Les terroristes anti-avortement ont gagné leur pari en mettant en place des techniques rodées pour harceler le personnel des cliniques américaines. Dans les années 2010, en effet, rares sont les États qui ne voient pas les établissements pratiquant des IVG fermer leurs portes. Mais au-delà des cliniques, le lobby anti-avortement a aussi gagné une bataille à la Cour suprême, par un jeu macabre d'alliances politiques avec la droite et l'élan trumpiste. Le 24 juin 2022, dans une Amérique de plus en plus conservatrice, la Cour suprême annule l'arrêt Roe v. Wade. Désormais, chaque État a la possibilité d'interdire ou de restreindre la possibilité pour les femmes d'accéder à l'IVG. 13 ans après son assassinat, le combat de George Tiller semble partir en fumée.
It was 8:49 on a beautiful night day of July. There was not a cloud to speak of, so the orange sun hung lonely in the sky. I lay prone in my cabby home, thinking of fine nappy Jackie and his jazz cat's horn, sliding in a tape of Bird on Verve when suddenly rang my phone. Hey, butterfly, the voice said, slip on some duds, comb out your fro, and slide on down to my pad. The vibe here is very pleasant, and I truly request your presence. A problem of great magnitude has arose, and as we speak it grows. Damn, what could it be, I thought, a juice I bought, and rolled on down to her spot. Seeing bros I know, slapping fives, I arrived and pressed G5. And there was Nikki, looking some kind of sad, with tears falling from her eyes. She sat me down, and dug my frown, and began to run it down. You remember my boyfriend Sid, that fly kid who I love? Well, our love was often a verb, and spontaneity has brought a third. But due to our youth and economic state, we wish to terminate. About this we don't feel great, but baby, that's how it is. But the feds have dissed me, they ignored and dismissed me. The pro-lifers harassed me outside the clinic and called me a murderer. Now that's hate. So needless to say, we're in a mental state of debate. Hey, beautiful bird, I said, digging her somber mood. The fascists are some heavy dudes. They don't really give a damn about life. They just don't want a woman to control her body or have the right to choose. But baby, that ain't nothing. They just want a male finger on the button. Because if you say war, they will send them to die by the score. Aborting mission should be your volition. But if Suda and Thomas have their way, you'll be standing in line unable to get welfare while they'll be out hunting and fishing. It has always been around. It will always have a niche. But they'll make it a privilege, not a right, accessible only to the rich. Hey, pro-lifers need to dig themselves, because life don't stop after birth. And for a child born to the unprepared, it might even just get worse. The situation would surely change if they were to find themselves in it. Supporters of the H-bomb and firebombing clinics. What type of shit is that? Orwellian, in fact. If Roe v. Wade was overturned, would not the desire remain intact? Leaving young girls to risk their health, doctors to botch and watch as they kill themselves. Now, I hate to sound macabre, but hey, isn't it my job to lay it on the masses and get them off their asses to fight against these fascists? So, whatever you decide, make that move with pride. Sid will be there and so will I. An insect till I die, till I die. Rhythms and sounds spinning around, confrontations across the nation. Your block, my block, dreadlocks, what a shock. Land of the free, but not me, not me.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, les anti-avortements aux États-Unis. Notre invitée Isabelle Anne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au journal Libération et vous avez été la correspondante de ce quotidien aux États-Unis. En janvier dernier, vous avez publié votre premier roman, Le Choix, aux éditions de la Goutte d'Or. Et pour ce récit, vous vous êtes inspiré du terrorisme anti-IVG qui a déferlé sur les USA entre 1980 et 2010 et dont nous venons de brosser le tableau. Bon, ça s'appuie sur l'affaire Killer en particulier. Donc vous êtes parti du réel. Comment avez-vous construit votre récit? Je veux dire, par quelles enquêtes, par quelles rencontres?
Alors, tous mes reportages, toutes mes interviews, le sujet de l'avortement était très prégnant pendant mes années de correspondance, puisqu'on a vu la Cour suprême basculer très clairement dans le conservatisme anti-avortement revendiqué. Donc j'ai été amenée à couvrir beaucoup de nouvelles lois restreignant l'accès à l'avortement, notamment dans le Sud et dans le Midwest, et j'ai fait plusieurs rencontres qui ont été assez déterminantes. Notamment une jeune Texane qui elle avait grandi dans ce milieu ultra conservateur et mais qui était devenue parce qu'elle avait subi elle-même un avortement était devenue pro-choice, pro-choix, pro-avortement et était en rupture familiale complète et elle m'a permis de faire ce voyage entre les positions des anti et les positions des pros et surtout de me faire comprendre que l'avortement bien avant d'être une opinion politique c'est une expérience personnelle, une expérience intime.
Bien sûr. Il s'appelle pro-choix. C'est quand même sans complexe, hein, parce que le choix, c'est justement le choix de garder ou pas l'enfant.
Oui, et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans le langage est très intéressant, parce que bon, voilà, les États-Unis ont quand même inventé des formes de communication que nous reprenons, et dans ce combat-là, les mots sont très importants. Les gens qui défendent l'accès aux droits reproductifs et à l'avortement s'appellent pro-choix. C'est très beau le choix. C'est le titre de mon livre. C'est oui. Un mot très simple et c'est un mot très beau. En face, qu'est-ce qu'on a? On a des gens qui s'appellent les pro-vie. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont contre les pro-vie, ils sont pro-mort. Et à côté de ça, le choix paraît un mot extrêmement faible. Et je trouve ça, voilà, je trouve que c'est toujours important de rappeler comment se sont construits ces vocabulaires d'opposition là qui ont complètement rythmé la politique américaine depuis 50 ans.
Et alors les pro-vie qui sont pour la plupart pour la peine de mort.
Alors voilà, c'est la dissonance cognitive qu'on retrouve très fréquemment. Par exemple, Scott Rudder, il est avant d'être arrêté pour le meurtre de George Taylor, il avait été mêlé, enfin il avait fait partie d'une milice anti-gouvernementale. Et alors je trouve ça totalement fascinant d'être contre le gouvernement. Mais de vouloir empêcher les femmes par des décisions du même gouvernement de faire ce qu'elles veulent de leur corps. De même, Roder, c'était un Français, hein, puisqu'il est toujours vivant, il purge sa peine dans une prison du Kansas, un born-again Christian, donc quelqu'un qui veut racheter ses fautes, voilà, un chrétien qui veut racheter ses fautes. Voilà, ça ne l'a pas empêché de tuer Taylor ou ça, dans une église, voilà. Moi, c'est ça.
Dans une église.
Voilà. Et puis, c'était en plus le deacon de l'église, donc je ne sais pas comment ça se traduit, mais genre, enfin, l'assistant du pasteur, donc quelqu'un.
Une sorte de vicaire, pour dire.
Voilà, c'est peut-être ça, vicaire, ouais. Et voilà, moi, je crois que la première fois que j'ai entendu parler de l'histoire de. Enfin, quand j'ai entendu la mort de Taylor, je crois que la chose qui m'avait le plus choquée, en dehors du fait qu'on puisse tuer un médecin parce qu'il fait son travail, c'était aussi qu'on le tue dans une église au nom de Dieu. Et je crois que, voilà, c'est. Toutes ces contradictions-là, elles m'ont beaucoup, beaucoup marquée.
Le vicaire et les sicaires des anti-avortements. Alors en France, les marches pour la vie, ça s'appelle comme ça, restent anecdotiques. Comment expliquer que la question de l'avortement soit un tel sujet polémique et finalement meurtrier aux États-Unis?
Alors, pour le cas de la France, moi, je suis pas du tout spécialiste de la France. Je sais qu'il y a eu des cas de manifestations devant des cliniques, notamment dans les années 90.
Oui, mais ça n'est jamais allé jusque-là, voilà.
Absolument
donc, on revient sur les États-Unis. Pourquoi ça va aussi loin dans ce pays?
Sur les États-Unis, bon, je pense que le point fondamental, c'est la relation, la proximité incestueuse qu'il y a entre la politique et la religion. Voilà, c'est un pays qui défend la liberté de religion au même titre. Qu'il défend, enfin sa constitution défend la liberté de religion, au même titre qu'il défend la liberté d'expression. C'est même le même amendement de la constitution. On a des présidents qui prêtent serment sur la Bible ou d'autres textes religieux. Quand il y a une fusillade, la première chose que les présidents ou les élus communiquent, c'est thoughts and prayers. Si on transpose ça dans un contexte laïque français, ce serait extrêmement bizarre. Chaque déplacement à l'église d'un politique est l'objet d'un moment de communication. Voilà, on sait à chaque fois que Joe Biden va à l'église et c'est pareil. Enfin voilà, tout comme Trump, qu'on sait être pas franchement un fervent croyant, a mis en scène son renouveau pro-life à quelques mois des élections présidentielles de 2016.
Oui, et d'ailleurs le mot God. Dieu fait partie du champ lexical politique et institutionnel aux États-Unis en plus.
Il fait partie du champ lexical de la vie quotidienne des Américains. Mmh, ouais. C'est-à-dire que même il y a beaucoup d'interjections, d'insultes. C'est Dieu est partout aux États-Unis. Et pour en revenir, pardon, j'ai pas très bien répondu à votre question précédente, mais sur
ça m'a pas marqué. Allez-y quand même.
Sur comment on en arrive à des extrêmes comme cela. La question, c'est l'avortement. Il est vu pour les uns comme un droit fondamental. Et pour les autres, il est vu comme un crime, un infanticide, puisqu'ils considèrent que dès qu'il y a conception, il y a vie.
Il y a vie, oui.
Et c'est un discours qui a été, voilà, répété par d'abord des représentants religieux, et puis quand le Parti républicain, à la faveur de la Moral Majority, dont vous parliez dans votre récit très bien, dans les années 80, quand ils se sont rendus compte du pouvoir mobilisateur et électoraliste de la question de l'avortement, ils ont repris ce refrain à leur compte, à toutes les occasions qu'ils pouvaient, et ça a totalement normalisé le fait de dire, voilà, un acte qui est pratiqué tous les jours parce que ça correspond pas à un choix de vie pour une femme qui est pratiquée légalement par un médecin, ça revient à un meurtre. Et donc si on totalise les avortements annuels, ça revient à un génocide. C'est un mot qu'ils utilisent si vous allez devant des cliniques qui pratiquent des avortements aux États-Unis, encore aujourd'hui dans les États où il est encore légal, vous allez avoir des gens avec des panneaux génocide.
Il y en a même un qui compare Tiller à Mengele.
Ah oui, Mengele, ouais, ça c'était... ouais.
C'est quand même, ça va loin quand même.
Tout à fait, oui, oui.
Vous avez quitté vous êtes revenu à la rédaction de Paris il y a combien de temps? Vous avez quitté les États-Unis il y a combien de temps?
Il y a 5 mois.
Ah bah voilà, donc je peux vous poser la question. Aujourd'hui, est-ce que Tiller a laissé chez les progressistes l'image d'une icône et chez les réactionnaires un antéchrist? Est-ce qu'on en est encore là?
C'est assez difficile à identifier parce que... alors, côté militant, ça reste une icône. Côté soignant, ça reste une icône. Maintenant, j'ai fait beaucoup de marches pour défendre, enfin en tant que journaliste, hein, pour couvrir tout ce qui était toutes les Women's March, toutes les manifestations pour défendre les droits reproductifs. Et c'est vrai que je me souviens pas avoir vu le visage de Tiller sur des pancartes, alors que les activistes américains sont très prompts à utiliser, voilà, des figures d'icônes. Mmh. On l'a vu après avec Ruth Bader Ginsburg, la magistrate de la Cour suprême qui est décédée il y a peu et dont le décès a complètement balancé la Cour suprême à droite. Elle, voilà, c'est une icône. Il y a des t-shirts, il y a des pins, il y a des mugs avec sa tête. Tiller est jamais devenu ça.
C'est étrange parce que dans le genre combattant d'une cause, il se pose là quand même. Hein.
Oui, et puis tout est fascinant, c'est-à-dire le côté, il n'était pas parti pour faire ça. Il voulait être dermato, il voulait vivre en Californie. Toute sa famille qui meurt brutalement. Enfin, je veux dire, il a une vie incroyable, pleine de drames. Et par ailleurs, quelque chose qui n'était pas mentionné, il me semble, dans votre récit, c'est quelqu'un qui avait avait beaucoup de démons, qu'il y avait le démon de l'addiction qui a beaucoup aidé des addicts, des alcooliques et des drogués. Il a un peu refaçonné les 12 étapes des narcotiques anonymes et des alcooliques anonymes pour les médecins qui sont les moins à même d'aller demander de l'aide. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a eu plein de combats. Et alors, la postérité, elle est quand même restée, c'est-à-dire pas vraiment pour lui, mais déjà sa famille a créé ce qui s'appelle un abortion fund, donc un fonds qui permet de financer les avortements des femmes qui peuvent pas se le permettre financièrement, notamment toutes celles qui doivent prendre des avions, hein, puisque maintenant il y a une quinzaine d'États où l'avortement est interdit aux États-Unis, même en cas de viol et d'inceste. Donc maintenant il y a un fonds d'avortement qui porte le nom de Taylor, et une de ses anciennes collègues, je crois 4 ans après son assassinat, au terme d'une campagne de financement participatif, a réussi à relancer la clinique de Wichita, qui s'appelle Trust Women, qui était une phrase qu'aimait beaucoup Taylor, et qui est devenue une clinique qui pratique des avortements, et le signe quand même de la postérité du docteur Taylor, même si c'est quelque chose que je m'imagine, j'ai pas de preuves plus que ça, mais il se trouve que le Kansas, qui est quand même un État qui vote traditionnellement républicain, a défendu là en novembre dernier lors des élections de mi-mandat, ils avaient un référendum sur le droit à l'avortement et ils ont très majoritairement soutenu le droit à l'avortement. Donc voilà, je pense qu'il y a un petit peu l'ombre bénéfique du docteur Taylor qui plane encore sur le Kansas.
On se retrouve dans quelques minutes après avoir écouté Zao de Sagazan, Les Dormantes.
L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux, l'amour qui nous rendra peureux, même des plus belles histoires à deux, même des plus beaux amours heureux. On a beau croire qu'on a gros caractère, ah, ces gens-là ont beaucoup de ça. Tu veux pas rester bloqué dans leur filet, mieux vaut filer dès que t'y es. Mais comment savoir que t'y es alors que l'eau est bleue et que les oiseaux se font rares? Tout se passe tout doucement pour arriver plus facilement au versant noir. Engage va certainement dévaler. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Oh oui, l'amour. Ces gens-là sont du genre très beau parleur, ah, la guicheur, l'allumeur, le séducteur. T'auras beau être en train de chialer depuis des heures, monsieur te prêtera des erreurs, lui qui n'en fait jamais d'ailleurs. Tout se passe tout doucement dans ses murmures, le serpent, et après la colère, il vous jure que ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Oui, ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou et j'en deviens sûr.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Dites-moi Isabelle Hans, Bill O'Reilly de la chaîne Fox News, qui traitait Taylor d'assassin d'enfant, en quelque sorte, il a dû raser les murs après l'assassinat.
Ah bah pas du tout. Il a fini par devoir raser les murs en 2017 après des révélations du New York Times qui a montré qu'il avait payé de hush money après des faits de harcèlement sexuel contre, je crois, 6 ou 7 femmes.
Il a fallu ça, sinon ça passait.
Voilà, il a été me-too'd, comme on dit. Sinon, il est resté une des figures stars de la chaîne pendant des années. Il a juste dit qu'il n'était pas solidaire de l'assassinat, mais il s'est jamais repenti pour ses propos qui sont d'une virulence incroyable. Ces diatribes sont folles. Et moi, je les ai utilisées dans mon roman texto. Hein. Moi, j'ai un personnage qui est un personnage de médecin qui s'appelle Luc Pavone, qui est la cible d'un commentateur, d'un polémiste d'extrême droite, qui s'appelle O'Brien de mon livre. Vous voyez, le clin d'œil est assez peu subtil. Mais voilà, parce que les mots sont tellement violents que je pouvais pas en inventer des plus forts que ceux de O'Reilly.
Alors, on a parlé des fondamentalistes qui plongent dans le terrorisme, mais j'imagine qu'il y a aussi un lobby anti-IVG efficace qui ne passe pas par le terrorisme.
Alors oui, et pareil, eux ont toujours dit « Ah, on n'y est pour rien s'il y a des éléments qui se radicalisent et qui finissent par assassiner des gens ou jeter des cocktails Molotov contre des cliniques. » Ce qui se passe, c'est encore il y a 2 mois, je crois, dans l'Illinois. Mais donc oui, ce sont des groupes extrêmement bien financés déjà, extrêmement bien organisés. Il y a un des lobbies les plus importants qui s'appelle le Susan B. Anthony List, qui reçoit l'argent des donateurs républicains habituels. Et eux ont poussé, poussent toujours, ont façonné l'agenda législatif, politique. Ce sont même des gens de ces groupes-là, des groupes pro-life, qui écrivent quasiment... même qui écrivent tout court les textes de législation anti-avortement qui sont ensuite votés par les parlements des États où là, comme on l'a vu, le texte qui est remonté jusqu'à la Cour suprême.
Et ils ont eu un rôle important dans l'élection de Trump ?
Absolument. Susan B. Anthony List, dont je vous parlais, par exemple, eux, ils ont fait un travail de terrain absolument d'une efficacité redoutable en allant voir... notamment dans la Bible Belt, donc dans le sud des États-Unis, très chrétien, pour dire, écoutez, oui, vous allez vous boucher le nez en votant pour Trump, qui est divorcé 3 fois et a des affaires de harcèlement et d'agression, qui le poursuivent. Mais sachez que si vous votez pour lui, il fera tout pour annuler Roe v. Wade et pour rendre l'avortement illégal dans le pays. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a tenu parole. Hein. C'était un donnant-donnant, c'est-à-dire qu'il a récupéré ses voix. Je veux dire, les évangéliques blancs aux États-Unis, les chrétiens évangéliques blancs aux États-Unis, c'est 90 millions de personnes. C'est beaucoup. Et ce sont des gens qui se mobilisent énormément. Ce sont des gens qui vont voter et Trump il a tenu parole puisque il a nommé des juges anti-avortement à tous les échelons judiciaires jusqu'à ses nominations à la Cour suprême et puis voilà, il manquait plus qu'un texte, qu'une loi remonte tous les circuits jusqu'à la Cour suprême comme on l'a vu avec Dobbs v. Jackson qui est donc ce cas qui a permis d'annuler Roe v. Wade en juin dernier.
Et les cliniques ont fermé un peu plus tour à tour, finalement.
Ça faisait des années qu'elles fermaient, parce que avant de faire tomber Roe v. Wade, ils avaient une grande créativité, donc ils pouvaient passer des lois sur la taille des couloirs, par exemple, ou des exigences envers les médecins qui étaient terribles. Mais donc tous les ans, il y avait des cliniques qui fermaient dans certains États. Là, aujourd'hui, je crois que la dernière comptabilité en date, qui n'est pas à jour, dit qu'il y a 30 cliniques qui ont fermé depuis juin, un peu partout aux États-Unis.
Donc quelque part, s'ils n'ont pas perdu, ils ont un peu gagné quand même.
Alors moi, j'ai pas envie de finir là-dessus, si je puis me permettre.
Oui, mais en quelques secondes, c'est vraiment la fin.
L'annulation de Roe v. Wade a aussi électrisé beaucoup les pro-choice, et notamment, et surtout le Parti démocrate, qui est beaucoup moins timoré sur le sujet. Donc je préfère ne pas terminer sur quelque chose d'aussi négatif.
Bien, Isabelle Anne, merci. Le roman s'appelle donc Le Choix. C'est à la Goutte d'Or, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Janvier, c'est ça ?
Fin janvier.
Merci, au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, terrorisme anti-avortement aux États-Unis, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Marie Potier.